Sur le pont des arts, Nathalie Amar.
C'est un jeune ouvrier du nord de la France, né en 1918, révolté par les injustices, biberonné au manifeste du Parti communiste et séduit, comme beaucoup d'autres, par les promesses d'égalité, de fraternité, de développement de l'Union soviétique des débuts. Mais le voyage vers l'URSS ne se passe pas tout à fait comme prévu et il se retrouve emprisonné au pays dont il a tant rêvé. Le roman aurait pu s'intituler « Les illusions perdues ». Son titre, c'est « Prisonnier du rêve écarlate ». Il y est question d'amour, mais aussi de la difficulté d'écrire l'histoire. On navigue entre la Russie, de Staline à Yeltsin et le Paris d'après mai 68, où, sur fond de libération des mœurs, trotskistes et maoïstes se livrent des disputes qui semblent presque irréelles aujourd'hui. France et Russie, au cœur du nouveau roman d'Andrei Makine, l'académicien est avec nous sur le Pont des Arts. Bienvenue, bonjour à toutes et à tous. Et bonjour à vous, Andrei Makine.
Bonjour.
C'est un plaisir de vous accueillir ici sur RFI, 30 ans après le testament français qui vous avait valu le Goncourt et le Médicis. Prisonnier du rêve écarlate, c'est une sorte de condensé de l'histoire du XXe siècle, en tout cas au moins de 70 ans de cette histoire, entre 1918 et 1989. En un mot, c'est aussi un roman sur l'engagement ?
Sur le vrai engagement, parce qu'il y a des engagements jetables, comme dit mon héros, il y a des engagements qui passent comme des modes, tandis que lui, c'est un engagement dans un seul bloc de foi. Et ça, c'est complètement différent, ça change tout.
Ça change tout, et vous soulignez dans ce roman, on va y revenir, tout autant les dérives du régime soviétique que celles d'après la chute du communisme. Vous n'épargnez ni les intellectuels français, ni les journalistes et leur goût du sensationnel. En fin d'émission, comme chaque semaine, musique sur le Pont des Arts. Bonjour Hugo Casaligno.
Bonjour Nathalie, bonjour à tous.
Il est encore temps de se dire bonne année.
Mais oui, exactement.
Sur la playlist RFI, ouais. Cette semaine, que trouve-t-on ?
Eh bien, le retour d'un groupe mythique nigérian, les Oriental Brothers International Band, vous allez voir, c'est excellent.
Et leur titre ? Allez, je vais me risquer à la prononciation.
Allez-y,
hein.
Allez-y, je vous la laisse.
Mnangagwan, voilà, on écoutera ça tout à l'heure avec vous.
RFI sur le Pont des Arts.
Andrei Makine avec votre nouveau roman « Prisonnier du rêve écarlate » avec nous dans cette émission. Ce qui porte ce roman, c'est le souffle de l'histoire dont on revit des pans entiers, mais à hauteur d'homme. C'est votre style, bien sûr, précis, direct, imagé, mais peut-être plus encore, en tout cas moi, ce qui m'a porté en le lisant, c'est ce personnage de Lucien, sa profonde humanité. Il y a sa foi politique. Il y a l'amour qu'il porte à une femme et même à plusieurs femmes, ses espoirs, ses déceptions, sa vieillesse aussi. C'est un peu une vie d'homme prise dans l'histoire qui le dépasse, qui le malmène.
Ce qui est intéressant, c'est que vous avez mentionné et vous avez bien fait l'existence de cette femme. Et je me dis parfois, ça aurait pu être le personnage principal. L'héroïne principale, c'est Daria, une femme brisée par la vie, qui se retrouve dans un petit village, dans un hameau au fin fond de la Russie du Nord, dans le Grand Nord, et qui accueille ce réfugié parce qu'il est, enfin, il porte un nom russe, mais il est français d'origine, il a perdu sa mémoire. Et donc, pour moi, c'était surtout ce qui était intéressant, enfin, c'était de voir ces deux vies se reconstruire. Est-ce qu'une vie peut être reconstruite quand elle est complètement brisée ? Et leur amour le prouve.
Oui, vous dites que c'est le personnage principal. Daria, elle est pourtant un peu plus discrète que lui dans le récit, mais c'est vrai que c'est elle qui le sauve, on peut le dire, sans déflorer complètement l'histoire.
Mais c'est un amour salvateur.
C'est elle qui lui redonne espoir. On va revenir sur la personnalité de Lucien, mais ce titre d'abord, « Prisonnier du rêve écarlate », vous le citez dans le prologue, Andrei Makine, comme celui d'un documentaire dont le tournage a lieu dans la Russie des années 80. Vous dites que le projet du réalisateur est à l'époque de rencontrer ce qu'il appelle des cocus de l'histoire.
Ben, je les ai rencontrés. J'ai rencontré ces anciens réfugiés en quelque sorte, réfugiés dans ce pays parce qu'ils fuyaient ou bien le nazisme ou bien le fascisme. Il y avait beaucoup d'Italiens. Ou les Espagnols, bien sûr, vous savez, avec le franquisme.
Ouais. Et toutes les nationalités qui se sont reconnues dans ce projet-là.
Toutes les nationalités. Il y avait des Scandinaves, il y avait des Chinois, des Japonais qui ont travaillé, par exemple, pour les services secrets soviétiques. C'était moins noble, si vous voulez, comme engagement. Mais ils se retrouvaient là avec ce rêve communiste, mais total. Total. Ouais. Ils venaient dans la patrie du socialisme.
Ouais. Il y avait même des Hollandais, vous le dites.
Des Hollandais déportés
en Sibérie. Ce film-là n'a jamais vu le jour. Vous avez accompagné, vous, le réalisateur.
J'ai retrouvé, grâce à ce film, enfin, j'ai été abandonné en cours de route, comme je le répète.
Vous le
film
ouais.
ne s'est jamais fait, mais il y avait 1000 projets parce que, vous savez, l'ours s'écroulait. Et il y avait quelque chose de dramatique et de risible à la fois. Et pour les cinéastes, c'était du pain béni, voir tout à coup tout ce qui paraissait monstrueux, énorme, écrasant, voir tout cela par terre, en disant, tiens, une petite caméra sur l'épaule et puis je peux tout filmer. Ce film ne s'est jamais fait, mais j'ai pu récupérer les cahiers de Lucien Baer.
C'est ça, c'est-à-dire que le tournage s'arrête, enfin votre participation à ce tournage s'arrête là où commence l'histoire de votre roman, lorsque le narrateur fait la rencontre de Matvei Belov. Alors c'est peut-être le moment, vous l'avez brièvement dit, de raconter en effet que Lucien a, au fil du roman, plusieurs identités.
Oui, c'était un jeune, vous l'avez très bien dit, jeune de Douai, c'est un jeune douaisien qui est né dans cette ville du Nord, dont le père était un ancien poilu, blessé à la guerre, et qui est mort assez tôt. Et donc, je pense que le premier déclic, vous voyez, chacun peut choisir son communisme. Lui, il était peut-être attiré par ce côté antimilitariste. Le premier décret du pouvoir soviétique, c'était le décret sur la paix. La Russie sortait de ce carnage effroyable de la Première Guerre mondiale, 1,5 million de soldats français tués. On oublie ça. Et puis les villes françaises traversées par ces ombres, par ces gueules cassées.
Oui, mais son tout premier engagement quand même et sa prise de conscience, ce sont ses parents qui ont une vie de labeur sans aucune reconnaissance. Vous avez évoqué le père, il y a la mère qui coud du matin au soir pour de maigres salaires.
Le père meurt au boulot. C'est un couvreur et il glisse sur un toit et il meurt. Et il se dit, ce jeune garçon, mais finalement, le travail pour ce capitaliste, pour ce patron, peut tuer plus sûrement qu'une balle à la Première Guerre mondiale. Et donc son engagement, qui peut paraître un peu naïf, mais il peut s'expliquer. Et il regarde de l'autre côté de la frontière, qu'est-ce qu'il voit ? Il voit le plein emploi, la médecine gratuite, les écoles ouvertes, les universités ouvertes à tout le monde. Et donc, il se dit, mais il y a quelque chose.
Ça représente un rêve pour lui. Alors, effectivement, il part avec ses camarades communistes en Union soviétique, avec des petites étoiles dans les yeux. Il va découvrir la patrie du bonheur, se contente de leur faire voir sur place. C'est ce que vous disiez, c'est un peu un pays de cocagne, où on travaille en chantant, où on partage à la fois l'effort, le fruit de l'effort, où tout le monde respire le bonheur. Lui, Lucien, y croit, mais il n'est pas idiot, loin de là. Puisqu'il perçoit la supercherie, il a à la fois son idéal et en même temps une perception très claire de l'opération de propagande à laquelle il est associé bien involontairement à ce moment-là.
Disons, ce n'est pas un candide. Et puis finalement, vous savez, il a appris le marxisme. Le marxisme, c'est tout simplement l'art de démystifier. Voyez-vous, on vous dit, la propagande officielle vous dit, je ne sais pas, une guerre en Ukraine. On vous dit, mais non, les intérêts financiers derrière, tout simplement. On dit, le patron et ses ouvriers, quelle belle entente. Mais non, c'est l'exploitation, toujours, et les gains qui intéressent ce patron. Le marxisme habitue notre cerveau à voir l'envers du décor. Et lui, il a appris à voir cet envers en France. Mais quand il vient en Union soviétique, il garde cette vision de détective presque. Il vient comme un Sherlock Holmes qui peut voir, d'après certains indices, la supercherie.
Et c'est parce qu'il veut voir l'envers du décor qu'il s'écarte du chemin tout tracé de la visite qu'il est arrêté. Et c'est le début donc de sa dure expérience, à la fois de la guerre, puisqu'il combat aux côtés des Russes contre le nazisme, l'expérience aussi de nombreuses années de travaux forcés, de mauvais traitements. Je voudrais que vous nous lisiez un extrait de ce roman, André Imakine, parce que à ce moment-là, où il vit quand même quelque chose d'extrêmement dur, il y a une chose qui le préoccupe presque davantage, qui le laisse incrédule. C'est lorsqu'il apprend la signature du pacte germano-soviétique. La patrie du communisme vient de signer un accord avec Hitler. Tous les repères s'effondrent.
Oui. L'habitude le protège de l'indignation inutile. L'accord qui vient de lier les nazis et les soviétiques rend insignifiant ce qui survient dans sa propre vie. Sa cellule dispose d'un lit et d'une table. La nourriture est suffisante. Les interrogatoires se passent sans brutalité. Il n'est pas incarcéré, lui explique-t-on, mais retenu pour faciliter les vérifications nécessaires. Sa demande de contacter le consulat nécessite une enquête préalable, lui dit-on. Il lâche prise, se souvenant de la catastrophe impensable, ce traité avec Hitler. Les promenades se déroulent sur le toit de la prison dans un enclos grillagé. Les détenus tournent lentement, des hommes de tous âges, et dont Lucien tâche d'intercepter les répliques. Mais les confidences sont rares, la méfiance permanente. Dans son russe incertain, il exprime son désarroi. Pourquoi l'arrêter, lui, qui n'a rien fait ? La question suscite des sourires aigres. Ici, tout le monde se croit innocent. On lui glisse à l'oreille une boutade proverbiale. « Trouvez-moi un homme, je trouverai pour lui un article du code pénal. »
André Imakine, il y a dans cet extrait toute l'absurdité de ce système soviétique qui le broie. Et pourtant, lui s'efface presque au profit de la grande histoire. Il se sent presque quantité négligeable à côté de ce qui se passe à l'extérieur et de cet accord entre l'Allemagne nazie et l'Union soviétique.
Cet accord a suivi plein d'autres accords. C'est ça qu'on oublie souvent, pas seulement Munich, pas l'invasion de l'Autriche, mais par exemple la Pologne a signé le même accord en 1934, bien avant. Donc Staline c'était un homme d'État très rusé. Il a signé justement pour ne pas être envahi en premier. Il a eu gain de cause parce que Hitler a lancé ses troupes en France ou en Belgique, on le sait très bien. Donc cet accord, ce n'était pas une exclusion purement soviétique. Mais pour un jeune communiste, c'était une catastrophe
totale.
C'était
la déception suprême. Oui. On va marquer une pause musicale, André Imakine, et ensuite, on écoutera ensemble un son d'archives qui remonte à 1966. Не приходи с мечом, приходи с добром.
Ты поздно понял, что важна каждая минута. Закостенелых душ объятия тебя не ждут. Я воспряну духом и добром, и ском, и выжгу дао. Дедлайн распорядится тут проблемами за малым. Дело лишнее, потерять рассудок лишнего не надо. Мы соберемся вместе снова вопреки разладам. В тумане плотном, непроглядном свету будет место. И мы без диких взглядов будем рядом наконец-то.
Разговаривать и понимать друг друга, слышать не перебивать.
Чего же ты хочешь от нас? Время тирания ночи. понимать друг друга, слышать не перебивать, речь будет теперь моя весна, ведь словно воздуха нашим нужна на расставе.
Dao, le titre est sorti le 26 décembre, trio de chanteurs russes, Miyagi avec Daina et Loy. Andrei Makine et son dernier roman, Prisonnier du rêve écarlate, avec nous sur le Pont des Arts. On parlait de ce héros, Lucien Baer, qui va de déception en déception. Donc il y a le pacte germano-soviétique 1939, mais aussi 27 ans plus tard, alors que lui s'est battu sans armes pendant la Seconde Guerre mondiale, qu'il a fait l'expérience du travail forcé, qu'il est ressorti des camps, puis re-rentré pour avoir protesté un peu trop fort, lui parvient la nouvelle du voyage du général de Gaulle à Moscou. On est en juin 66, extrait des archives de l'INA, le 20 juin précisément. Attention, avec le son de la radio de l'époque, il faut tendre l'oreille.
Приветствую великий советский народ! Да! Здравствуйте, Россия!
Le peuple français salue le grand peuple soviétique. Vive la Russie! Pour la première fois, le général de Gaulle s'adresse en russe à ses hôtes soviétiques. De Gaulle a salué debout dans sa voiture 1 500 000 moscovites sur une quinzaine de kilomètres. Il avait à ses côtés deux interprètes, et M. Podgorny, président du Présidium du Soviet Suprême, c'est-à-dire le chef de l'État soviétique, M. Kosygin, président du Conseil, qui venait de lui présenter les cosmonautes Leonov et Yuri Gagarin. De son geste large, il semblait remercier la foule d'avoir passé son après-midi à l'attendre, malgré la chaleur, malgré les 30 degrés de cet après-midi à Moscou. Le départ des voitures officielles du cortège s'est transformé dans la précipitation en, si vous voulez, 24 heures du Mans. Deux véhicules endommagés ont dû abandonner la course qui s'est engagée sur 35 km de Vnukovo au Kremlin. Il y avait de tout dans cette foule colorée et, on peut le dire, je crois, gaie, qui agitait drapeaux et slogans. Des paysannes, le fichu sur les épaules. Des pionniers avec leurs foulards rouges. Des ouvriers et des employés qui avaient obtenu congé pour la circonstance. Des étudiants africains devant l'université Patrice Lumumba, réservée aux jeunes du tiers-monde. Et des groupes bruyants au balcon des immeubles neufs de l'avenue Lénine sur 9 km qui scandaient « Hurra, hurra, vive l'amitié franco-soviétique, gloire à De Gaulle ». La rue soviétique a donc fêté aujourd'hui De Gaulle.
Voilà, le général De Gaulle accueilli à Moscou. On a fait une plongée dans le passé. Andrei Makine, je vous voyais sourire à l'écoute de cette archive. C'est vrai que... Qu'est-ce que ça évoque en vous?
C'est un souvenir étonnant.
Vous étiez encore en Russie.
Parce qu'entendre De Gaulle dire, non pas l'Union soviétique, je salue, non, oui, pas l'Union soviétique, mais la Russie, ça en dit long sur son sens historique. Et d'ailleurs, c'est à lui qu'appartient cette phrase, ce jugement plutôt, un jour quand l'Union soviétique redeviendra la Russie. Mmh. Vous voyez, mmh. Et il le disait sans offenser les soviétiques, sans offenser, mais avec ce sens aigu de l'histoire.
Une forme de clairvoyance, ouais. Oui. Ouais. Mmh. 66, c'est le temps de Brejnev, que vous appelez dans le roman le tombeur du tombeur, le tombeur de Khrouchtchev, lui-même tombeur de Staline. Khrouchtchev à qui vous accolez un seul adjectif, celui de clownesque. Mmh. Vous n'êtes pas tendre, effectivement, avec les dirigeants de cette époque-là.
Mes personnages ne
avec
sont pas tendres.
Les personnages ne sont pas tendres, sous votre plume, évidemment. On est dans un roman. Dans la deuxième partie de ce roman, Andrei Makine, Lucien retrouve la France. Et dites-moi si je me trompe, mais j'ai l'impression que vous avez pris un malin plaisir à dépeindre cette France des années 60, avec un peu un portrait à charge de ces intellectuels parisiens, déconnectés de la réalité, plein de grands idéaux, mais finalement pas si généreux que ça dans leur quotidien. Je me trompe ?
Mais finalement, ils sont assez modernes.
On
aurait pu trouver
les
mêmes, chère Nathalie, on aurait pu trouver les mêmes aujourd'hui. Aujourd'hui, donc je pense que c'est tout à fait intemporel ce que je décris. Et de nouveau, c'est le regard quand même de quelqu'un qui sort de 30 ans de cet exil russe, ce n'est pas mon cas, qui a fait deux fois le goulag, qui est passé par la guerre, où il a été blessé à plusieurs reprises. Donc ce n'est pas vraiment l'auteur qui parle, mais c'est le narrateur. Au début, il est séduit. Il est séduit par ce mai 68. Il s'est dit, tiens, comme les relations sont apaisées, la vie est assez facile, l'abondance alimentaire, tout le monde a du travail. Vous savez, le chômage, et le cite d'ailleurs dans le livre, se comptait à 300 1000 chômeurs, 300 000 chômeurs, on disait, on s'arrachait les cheveux déjà. Enfin, ouais. Quelle horreur, n'est-ce pas? Oui. Et donc, dans cette France un peu embourgeoisée, tranquille, qui paraît presque fraternelle, il trouve sa place d'anti-soviétique. Il commence à critiquer les régimes totalitaires.
Mais il se heurte à l'incompréhension de ces gens, puisqu'il devient, on veut en faire un symbole du martyr des internés dans les camps staliniens. C'est ça qui se passe à son retour à Paris, c'est ça.
Il aurait dû être un figurant dans cette pièce qu'ils ont écrite pour lui, c'est évident. Ouais. Et il n'accepte pas, oui, d'être juste un clown, juste un joueur.
Mmh. Vous dites qu'il est, à cette époque, comme un scaphandrier face à des surfeurs. Un scaphandrier comme moi n'a rien à apprendre des surfeurs. Ils se sont effectivement un peu prisonniers donc du rôle dans lequel on veut l'enfermer, face à des gens dont la parole est libre. Les mœurs aussi sont libres, vous le décrivez très bien, hein, ce Paris de la fin des années 60, avec la sexualité débridée, les parties de fumerie, et pas seulement de
qui nous paraît aujourd'hui extrêmement étrange, n'est-ce pas, ces mœurs nous paraît, enfin, vous savez, je parlais avec les gens de cette génération, avec les Parisiens entre autres, et les histoires qu'ils m'ont racontées nous paraîtraient aujourd'hui parfaitement impossible dans notre vie. Nous paraissons très compassés aujourd'hui, vous voyez, avec cette liberté, avec cette explosion, ne serait-ce que l'explosion de la révolution sexuelle. Oui.
Ouais. Il devient une caution historique, un anti-soviétique d'honneur. Ça va finir par le rendre fou, André Makine.
Non, je pense que la perte de la mémoire est arrivée bien plus tôt, à cause des tortures. Vous voyez, il a perdu sa mémoire, il l'a retrouvée partiellement, et quand il arrive à Paris, et il écrit un livre grâce à une journaliste, à Julia Garibay, l'une des journalistes qui l'accueille et qui lui fait écrire un livre en questions-réponses, n'est-ce pas? Et à ces réponses, qui sont un peu traficotées quand même, oui, pour la bonne cause, vous voyez, lui font perdre le vrai fond de sa mémoire, et sa mémoire est remplacée par ses réponses extrêmement politiquement correctes.
Mmh. Il épouse le récit qu'on veut lui faire dire.
Un récit, on lui a inoculé en quelque sorte la mémoire qui n'est pas la sienne.
Не интересует меня, как в небе дела. Жизнь моя приземленная. Счастье дня от труда. Что посвятил я для себя, друзья? Пас налево, пас направо. Важно, чтоб были люди рядом. В мире большом ценится тот, кто определял. Прихожу с работы, жму кнопку off. Я мастер поедания, сам сы любитель борщов. В метро еду, смотрю в экран соседу. В Бога верю в себя, что жизнь хороша, когда есть сила труда. Посуду бою, здесь медитейшн, лов вайбрейшн. Пилим, 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 благоустрой. Точим, точим, точим пилку, если оказалось за тобой. Видим, видим, замечаем, идет работа над собой. Тихо, тихо, помаленечку все за душой. Бам-бам, черли-черли-бам. Чай заваришь, только кипятком вари. We'll be right back.
La programmation musicale russe, spéciale dédicace pour vous, Andreï Makine, avec ce titre « Baume », c'est Antonin MC qui mixe, me disent Damien et Pierre, en régie, hip-hop, dub et house. Ça vous dit quelque chose, Hugo Casalino?
Pas du tout.
Non, on ne connaît pas non plus. Andreï Makine, il y a dans votre roman une et même plusieurs références à Alexandre Solzhenitsyn, cet écrivain russe chassé de son pays par les communistes en 1974, qui a écrit donc « L'archipel du Goulag », dans lequel il témoigne de son internement. On va l'écouter, c'était en 93 à la télévision, sur le plateau de l'émission Bouillon de Culture. C'est un bref extrait. On est après la chute du communisme, il est interrogé là-dessus et il dit qu'il a toujours eu le sentiment que le communisme s'effondrerait.
C'était un sentiment inexplicable que je ne saurais lui trouver d'explication, mais j'étais convaincu que j'allais rentrer en Russie. Mais la chute fatale et inévitable du communisme découlait de la nature même du communisme qui ne pouvait pas tenir. Il était condamné.
Voilà, Alexandre Solzhenitsyn, on évoquait tout à l'heure la préscience de De Gaulle. Lui aussi, donc, dit l'avoir eu, cette préscience, et en tout cas cette foi dans sa libération au moment où il était interné.
Oui, il a publié quand même en Russie un récit qui a fait beaucoup de bruit, qui a secoué ses lecteurs, une journée d'Ivan Denisevitch, oui, n'est-ce pas? C'est une journée d'un zec, c'est-à-dire c'est un prisonnier du goulag, et qui est raconté par le menu tout ce qui se passe dans une journée, vous voyez, avec ses hauts et ses bas, avec ses petites brimades, quelque chose de très quotidien, à ce point qu'on a dit, mais finalement, c'est un roman professionnel. Sauf que ça se passe en Sibérie, à part moins 50, oui, mais c'est un roman professionnel.
C'était un relevé, une espèce de journal, en fait,
c'était
un
publié,
journal de descente.
Oui, mais il n'aurait jamais pu publier, bien sûr, l'archipel du Goulag en Russie.
En Russie, évidemment. Solzhenitsyn, c'est un peu l'anti-Lucien, Andreï Makine. C'est un intellectuel, il est à l'aise à l'oral, il donne le change, il se plie au jeu médiatique aussi. Quand Lucien, lui, on le disait tout à l'heure, n'a pas les codes pour naviguer dans ce monde-là.
Non, il voudrait casser ses codes. Il voudrait casser les codes du monde bourgeois, du monde capitaliste, c'est-à-dire le code où un homme ou une femme doit vivre en ayant toujours peur au ventre de perdre leur emploi, par exemple. Pourquoi l'ours l'a attiré tellement? Attendez, il disait, mais comment est-ce possible? Vous voyez, avec tous les méfaits que le régime pouvait produire par ailleurs, qu'un homme vivre dignement sans avoir cette peur au ventre en permanence. Et donc, il voudrait casser aussi tout simplement les codes de bien-pensance, de bien-séance entre les intellectuels. Bien sûr, vous voyez, Aragon, il a retourné sa veste très simplement, justement parce qu'elle était, vous avez tout à fait raison, il était outillé. Il était outillé intellectuellement. André Gide, la même chose, n'est-ce pas? Lui, il veut aller jusqu'au bout parce qu'il croit à ce projet, vous voyez, malgré ce qu'il a vécu.
Prisonnier du rêve écarlate, je le disais, nous promène dans l'histoire du XXe siècle, tout le XXe siècle justement, jusque dans ces années 90, hein, les années Yeltsin, qualifié au passage d'ivrogne de président par l'un de vos personnages, avec l'avènement des oligarques de la mafia russe. Il y a un passage dans le livre où vous écrivez « Un pays où les fortunes se créent en quelques coups de feu, les maisons se louent pour une poignée de dollars, de belles jeunes femmes s'offrent sur une promesse de mariage avec un occidental. » C'est le résumé que vous, Andreï Makine, faites aussi de cette période-là?
À cette époque-là, j'y allais assez souvent parce que le cœur serrait. Voyez-vous, moi-même, je suis passé par cet engouement communiste, je ne le cache pas. Jeune garçon, j'y croyais. Voyez. Et voir quand même ce rêve chèrement payé, trop
jeune garçon
chèrement payé,
né, on ne l'a pas dit. En Russie,
en Union soviétique. Et donc voir que d'énormes sacrifices ont été consentis par le peuple, finalement pour en arriver là, c'est-à-dire on arrive à une situation où l'économie est vampirisée, où les ouvriers ne touchent plus leur salaire, où le système de santé n'existe plus. Et tout cela est vécu par les vétérans, c'est-à-dire ceux qui sont revenus de la guerre, décorés avec leurs ordres, et ils sont obligés de vendre leurs médailles pour une poignée de dollars.
Vous voulez dire que finalement, c'est peut-être pire encore que la période stalinienne? stalinienne, cette période-là, dans l'excès et dans la désillusion ?
Je ne le crois pas, parce que Staline, c'était une longue période, c'est une longue nuit quand même. Il ne faut jamais, vous savez, je ne serai jamais de ceux qui essayent aujourd'hui de réhabiliter Staline. Ce n'est pas du tout ma tasse de thé. Mais c'était une période, à mon avis, de très grande honte aussi pour la conscience nationale, parce que tomber aussi bas, vous voyez, vivre dans un pays en dislocation où il n'y a aucune valeur, où la seule valeur c'est ce capitalisme grotesque, c'est pas du tout le capitalisme occidental comme on le voit aujourd'hui, oui c'est le capitalisme des gangsters, mais la question déjà à ce moment-là se passait, mais est-ce que ce qu'on voit par ailleurs, les guerres en Syrie, en Afghanistan, en Libye, tous ces pays détruits, est-ce que c'est mieux? Est-ce qu'une diplomate américaine, Madeleine Albright, en répondant à une journaliste américaine qui lui pose la question, mais enfin, il y a quand même 500 000 d'enfants tués en Irak, et qui dit, mais ça en valait la peine. Mm-hmm. Est-ce que c'est mm-hmm. mieux que ce que vivaient les Russes à cette époque-là sous Yeltsin? Mm-hmm. Je me le demande.
Et la Russie de Poutine, Andriy Makine, elle a perpétué cette histoire à la fois de répression, d'enrichissement personnel, d'excès.
Il y a beaucoup de corruption, ça c'est vrai. Oui. Enfin, combien de gouverneurs, combien de généraux, mais récemment, sont arrêtés, sont maintenant écoperons de 15 ans ou de 20 ans, et on retrouve des fortunes, on retrouve... Vous savez, le côté qui me frappe le plus, c'est le ridicule de cet enrichissement. Voyez-vous, Marx disait il y a un côté morbide dans l'enrichissement. Morbide, c'est-à-dire l'homme commence à accumuler les choses, il ne sait plus quoi en faire. Mmh. C'est-à-dire même ses petits-enfants seront encore milliardaires jusqu'à la mort. Ouais. Et il continue à baffrer tout cela. Et ça, c'est, ce côté ridicule me frappe presque plus que le reste.
Il y a l'enrichissement, mais il y a la guerre. Vous évoquez la guerre en Irak, il y a la guerre aussi en Ukraine, dans cette Russie de Poutine.
C'est terrible, terrible carnage. Je me suis révolté à plusieurs reprises parce que le conflit aurait pu être tout à fait évité. Pendant 8 ans, on menait ces négociations et puis on a entendu Mme Merkel et M. Hollande qui nous disaient à haute voix, mais attendez, on l'a fait pour armer l'Ukraine et pour transformer l'Ukraine en une sorte d'anti-Russie et installer les fusées de l'OTAN. Ce qui était, pour les Russes, je ne dis pas que c'était bien ou que c'était pas bien, mais pour eux, c'était inacceptable.
Vous voulez dire que l'Occident a joué un jeu dangereux face au jeu, on va dire, incendiaire aussi de Vladimir Poutine dans cette région ?
Pour la Russie, l'idéal, ce serait tout simplement avoir un pays frère, comme l'Ukraine l'a toujours été, indépendant, bien sûr, mais... en vivant avec la Russie en bon terme. À mon sens, c'est tout à fait possible. 10 millions d'Ukrainiens vivaient en Russie tranquillement en travaillant. Tous les Russes étaient mélangés. Enfin, c'était les Bourguignons et les Berrichons. Vous voyez, les Bourguignons et les Berrichons ne doivent pas se battre. Enfin, c'est complètement ridicule. Donc, la guerre est un carnage impardonnable.
C'est pas ce que disent les Ukrainiens qui revendiquent leur identité nationale.
Ils ont été indépendants pendant 30 ans. Et tout s'est passé très, très bien.
Ouais.
Tout s'est très, très bien passé à ce moment-là.
Andriy Makine, on va quitter les sujets géopolitiques. Je ne sais pas si vous arrive d'écrire en musique ou d'écouter tout simplement de la musique. Ça vous arrive ?
Je ne suis pas un musicologue. Oui, je vous envie beaucoup, cher monsieur. Mais peut-être parce que je suis trop sensible à la musique. Vous voyez, chaque note me touche. Et d'ailleurs, il y a un adagio, vous savez, dans le roman qui accompagne chaque pas du héros, oui, de Lucien Baer, même au goulag.
Alors là, on va vous emmener sur un terrain que vous ne connaissez peut-être pas, sans doute pas. Hein. Musique, c'est le hit de la semaine sur le Pont des Arts, comme tous les mercredis, avec Hugo Casaligno de la programmation musicale. Hugo, vous nous avez déniché donc cette semaine Oriental Brothers International Band, c'est le nom du groupe.
Ouais.
Le titre sur la playlist RFI, Dag Nawan. Ça y est, j'y arrive mieux. Love you. Oriental Brothers International. Hugo, c'est un groupe du Nigeria.
Un groupe mythique hein, du Nigeria. Ils viennent de fêter leurs 50 ans de carrière. Enfin, c'était il y a un ou deux ans. Comme quoi, il n'y a pas que les Rolling Stones hein, qui tiennent la route. Rendez-vous compte, leur premier enregistrement date de 1973 sur le label Decca. Alors, ils se sont formés en 1970, juste après la guerre du Biafra. Vous savez, cette guerre terrible, guerre civile au Nigeria, fin des années 60. Et leur musique est ce qu'on appelle du Igbo High Life.
Alors là, on a besoin d'une petite explication, Hugo. Hein. Igbo High Life, oui. Dites-nous en plus.
Alors, Igbo, c'est le nom de l'ethnie majoritaire dans le sud-est du Nigeria, la région dont sont issus les Oriental Brothers. Et le High Life, vous connaissez?
Ah ben non, je ne connaissais pas, mais pour moi, c'est juste la grande vie, quoi, la vie de où on flambe.
Alors oui, c'est aussi un style musical. Hein. Le High Life, c'est un peu la musique soul africaine, ça vient du Ghana. Et dans les années 60-70, ce style va littéralement envahir toute l'Afrique. Il servira même à Fela et Tony Allen à créer l'Afrobeat.
Alors cet autre titre des Oriental Brothers, c'est Ile Chinienre, si je ne me trompe pas encore une fois. Si vous nous écoutez à l'autre bout du monde, n'hésitez pas à nous dire. Hein, pontdesarts@rfi.fr. Alors ce qui est assez incroyable, Hugo, dans leur histoire, c'est qu'ils ont signé leur retour sur un label colombien.
Oui, c'est complètement fou, je vous explique. Les Colombiens sont très proches de la culture africaine, dû à leur passé de pays d'esclaves. Et sur la côte des Caraïbes, au nord de la Colombie, plus précisément à Cartagène, Lucas Silva, le créateur du label Palenque Records, spécialisé en musique afro-colombienne, découvre lors d'un sound system de musique champeta les Oriental Brothers. La champeta, c'est une musique colombienne qui puise ses racines dans les musiques africaines. Il se rend compte que leur musique était jouée sans arrêt. Les fans avaient même donné des noms locaux en espagnol à leur titre. Non, c'est vraiment un groupe référence dans la naissance de la champeta.
Hello fans, this is the original legendary Oriental Brothers International Band of Africa, led by Ferdinand Dasache Mekopara, with the latest release. Onyerie ibeyerie.
De fil en aiguille, Hugo, Lucas Silva va au Nigeria, il les retrouve et il signe avec eux pour réenregistrer avec eux.
Mais oui, après une carrière chaotique du groupe, hein, dans le sens où pratiquement tous les membres ont tenté de créer leur version des Oriental Brothers, aujourd'hui il ne reste que le leader bassiste Dan Satch et le joueur de congas Akila. Cela faisait 20 ans qu'ils n'avaient pas enregistré, c'est donc avec d'autres acolytes qu'ils vont sortir un nouvel album en 2023, Oku Ngo Diochi, célébrant leurs 50 ans de carrière, et ils sont déjà de retour avec un nouvel opus, Onyerie Bieya, Erie qui veut dire en Igbo celui qui mange doit être aussi mangé, qu'on pourrait traduire par si tu abuses de quelqu'un, attends-toi à un retour de bâton.
Vous nous rappelez, Hugo, le titre de ce hit que l'on retrouve sur la playlist RFI?
Allez, on va essayer. Mnag Wanawane, ce qui signifie toi et moi, nous sommes frères.
On réécoute. Voilà, les les Oriental Brothers International Band et le reste de la playlist officielle d'RFI. On les retrouve sur RFI.fr.
Comme d'habitude, sur RFI.fr et toutes les plateformes musicales, Nathalie.
Et vous, Hugo, ben on vous retrouve dans 15 jours.
Ben avec plaisir.
Pour un nouvel extrait de la playlist RFI. André Imaki, vous avez écouté très attentivement.
J'essaie de comprendre la langue. Ce sont les langues qui m'intéressent.
Ah, le Igbo, il faut pouvoir le parier.
50 ans de carrière pour ces musiciens nigérians. Vous n'y êtes pas encore. Hein, vous n'avez pas commencé à écrire tout petit.
Oui, mais
on citait le testament français il y a 30 ans.
L'écrivain, c'est un métier beaucoup plus silencieux, vous savez, beaucoup plus concentré sur une page devant vous.
Et solitaire. L'avantage, c'est qu'on évite les disputes comme dans les orchestres, comme dans les orchestres de musique.
RFI sur le pont des arts.
On évoquait vos débuts, André Imakin, premier roman 1990, c'est ça ? La fille d'un héros soviétique, déjà ancré dans cette histoire de l'URSS. C'est une constante en fait, qui traverse toute votre œuvre.
En même temps, voyez-vous, on le dit toujours, mais là, le dernier roman, vous avez vu, il y a une très grande partie qui se passe en France. Et d'ailleurs, le héros est un Français, un provincial, hein, ce qui est assez rare pour un roman parisien, n'est-ce pas, nous avons
absolument, on est dans le nord de la France, il y retourne d'ailleurs, et on revisite
Douai,
cette région.
Oui. Et il parcourt d'ailleurs la France parce que quand il a publié son livre, il est à Nice, à Lyon, à Bordeaux, etc. Donc partout un peu en France. Et il va aussi aux États-Unis. Oui.
Est-ce que cette histoire, vous avez eu, comme lui, à la subir ? Et est-ce que vous avez été, vous l'avez un peu évoqué tout à l'heure, vous aussi, à un moment donné, prisonnier du rêve ?
Je le reste, à mon avis. Je le reste toujours parce que je me dis seulement, la seule question qui se pose, c'est le prix du rêve. C'est le prix. Quel sacrifice nous consentons pour la société future, voyez-vous, il y a chez Dostoïevski cette phrase magnifique dans Les Frères Karamazov, quand Ivan dit, écoutez, pour votre paradis futur, s'il y a une seule larme d'enfant qui doit être versée, je vous rends mon ticket d'entrée. Et tout est dit. Bien sûr, c'est complètement radical, vous voyez. Donc, on ne fait pas, on nous dit une omelette sans casser des œufs. Vous voyez, il faut toujours payer chaque révolution, chaque changement, chaque réforme, chaque changement sociétal ou social. Mais la question doit se poser. Est-ce que nous sommes prêts à verser du sang, vous voyez, pour que ce paradis advienne.
Le rêve d'aujourd'hui, de 2025, il existe, il est inventé, il est absent.
Mais les lecteurs qui liront ce livre jusqu'au bout, ils verront que la dernière partie est consacrée à ce rêve réalisé. Justement, dans un dépouillement matériel total, mais dans cette communion fraternelle, non pas le communisme, mais la communion fraternelle, le partage, l'amour oblatif qu'il vit, un amour qui s'offre, qu'il vit avec Daria.
Donc, moi, la communion fraternelle et la communion avec la nature aussi. Hein,
avec la nature, c'est très important, avec le cosmos. Vous voyez, c'est presque un mythe cosmologique à la fin, n'est-ce pas ? Et donc, la planète qu'on détruit aujourd'hui, justement, pour accumuler de façon morbide, comme disait Marx, nos biens, peut être revue encore. Pas d'une façon écologique au sens idéologique du terme, pas du tout, mais grâce à ces communautés humaines qui s'organisent et qui vivent, non pas en autarcie, parce qu'elles sont, au contraire, elles sont reliées à d'autres communautés.
Donc pas au sens de l'écologie politique, si je vous entends bien, mais au sens d'une certaine ascèse dans le comportement, c'est ça.
Mais une ascèse qui ne s'impose même pas, parce que la nature nous donne tout. C'est tout simplement parce que nous voulons posséder. Si vous vouliez vivre, vous, chère Nathalie, ou moi, ou vous, cher monsieur, si nous voulions vivre comme Trump, il faudrait que sur cette terre, il n'y ait que 12 millions d'habitants. Si nous voulions vivre comme les Américains,
l'ensemble des Américains, voilà, pas seulement leur futur président,
on serait 200 millions, pas plus. 200 millions. Donc, voyez-vous, il ne faut pas non plus tomber dans la pauvreté à l'indienne ou à la chinoise ou dans les pays en développement. Il ne s'agit pas de cela. Mais peut-être il faudrait quand même revoir un peu nos standards de vie.
Je voudrais qu'on dise un tout dernier mot de la langue, puisque vous évoquiez la langue Igbo du Nigeria, André Imakin. Vous êtes, je l'ai dit, académicien. Vous faites partie des immortels depuis 2016. Quel rapport entretenez-vous avec la langue russe ? vous avez toujours écrit en français.
J'ai toujours
écrit. Vous avez appris de votre grand-mère, vous l'avez raconté à plusieurs reprises.
Ma grand-mère était française, donc vous voyez, je n'ai aucun mérite en ce sens. Je l'ai appris quand j'étais jeune, mais j'ai gardé l'accent russe. Vous voyez, c'est la seule chose qui me reste. Je peux bien sûr m'exprimer en russe, je peux écrire, je pourrais écrire en russe. Le russe a beaucoup évolué. Et voyez-vous, nous avons parlé de cette page tragique de notre actualité, de cette guerre fratricide entre les Ukrainiens et les Russes, enfin entre les Russes et l'OTAN. Il faut dire les choses clairement. Mais quand j'entends les prisonniers ukrainiens, ces pauvres soldats, quand je les entends parler russe, ils parlent un russe plus châtié, un meilleur russe, bien meilleur que ce que j'entends à Moscou, qui est très anglicisé maintenant. Donc, voyez-vous, peut-être la langue pourrait nous unir en disant « nous parlons cette même langue ». Donc, la langue, c'est toujours une question de partage. C'est pour ça que je me suis intéressé à cette langue africaine. Je me dis « est-ce que je vais saisir au moins le groupe, la famille à laquelle cette langue appartient ?» C'est impossible. Les langues africaines, c'est un trésor absolument ineffable. Il faudrait l'étudier pour une raison très simple. C'est que ces langues, surtout les petites langues, elles disparaissent aujourd'hui.
Et vous savez qu'on les entend sur RFI, les langues africaines.
Oui, mais
je ne sais pas si vous le savez, mais je vous le dis.
C'est un exploit.
Les retrouver.
C'est un exploit parce que j'entends de temps en temps vos interviews et je me dis, mais quand il y a une traduction, je me dis, mais voyez-vous, cette langue-là, derrière, il y a une bibliothèque. Il y a une bibliothèque de connaissances, justement de codes moraux, des proverbes, de l'humour, de l'ironie. Tout cela est concentré dans une langue qui peut-être au fin fond de l'Afrique, qui survit encore, mais il faudrait absolument créer ce que l'Union soviétique a fait. Voilà, il a créé l'alphabet pour toutes les langues vernaculaires.
Est-ce que vos livres sont distribués en Afrique? C'est une question, je ne le sais
non,
pas.
Non,
est-ce qu'ils
sont
lus
là,
en Afrique francophone?
Je vais rougir allez-y, d'orgueil.
Allez-y.
Parce que je vois, vous voyez, le Sénégal, mon livre a été traduit en sérère.
En sérère.
En sérère, oui. Et pour moi, c'est
magnifique.
Ça vaut tout. Toutes mes traductions, toutes les traductions en anglais, en japonais, etc.
Et il doit être lu également certainement en français. On a un rendez-vous dans cette émission avec un libraire de Dakar, Souleymane Gueye. On lui posera la question la prochaine fois qu'on l'aura eu en ligne. Merci André Makine d'avoir été avec nous aujourd'hui. J'espère qu'on n'a pas trop défloré le sujet de ce très beau roman Prisonnier du rêve écarlate qui est paru donc chez Grasset. C'est un roman vraiment qu'on ne lâche pas une fois qu'on y est entrée et je ne peux que vous le recommander. Demain, sur le Pont des Arts, Guillon Lethière, né à la Guadeloupe. C'est une exposition en ce moment au musée du Louvre. L'histoire d'un peintre qui s'est plié au code de la royauté et de l'Empire, mais qui a fini par laisser parler sa sensibilité antillaise en peignant en secret le serment des ancêtres. Un tableau qui évoque la naissance de la République d'Haïti, tableau fondateur. On en parlera avec la conservatrice de l'exposition Marie-Pierre Salé et avec Lionel Trouillot, l'écrivain, qui sera en ligne avec nous de Port-au-Prince. Rendez-vous 15h10, temps universel. Merci à Pierre Plantier à la réalisation et à Damien Roucou pour la programmation. Dans une minute, le journal en français facile.
Votre rendez-vous culturel sur le Pont des Arts, à retrouver du lundi au vendredi à 15h10 TU sur RFI et en podcast sur l'application Pure Radio.